philosophie éthique, père Marie-Dominique Philippe, le 14 mai 1998 à Saint-Jodard.
Je ne vois plus très bien ce que m'apporte toute cette analyse des différents moments de l'amour d'amitié. Quant à l'exercice de cet amour, cette partie de la philosophie est en pratique. Pouvez-vous nous remonter sur l'amour, en quoi elle m'aide à mieux agir, car il me semble que je peux aimer d'une manière véritable, d'un véritable amour, sans être philosophe, heureusement. Heureusement, c'est moi qui l'ajoute. Mais la philosophie n'est pas l'amour d'amitié. La philosophie est faite pour que vous preniez conscience de la grandeur de l'amour d'amitié, dont vous avez l'expérience. Et que vous voyez que cet amour d'amitié, comme tout amour véritable, a à la fois une très grande fragilité et une très grande force. Une très grande fragilité, parce que cet amour d'amitié risque toujours de s'emparer ou de se laisser emparer par la passion, par l'imagination, par toutes les tentations de l'irascible et du concupiscible et de l'imaginaire. Soin de cette analyse. Mais comme nous sommes dans un milieu de vie qui n'est pas précisément un milieu de vie d'amour, d'amitié, sauf de vision, et que on est constamment tiraillé par les passions, par l'imaginaire, comment arrêter tout cela? Avec le quand il fait froid, c'est très agréable. Puis au bout d'un certain temps, la peau s'use. Ah, on commence à voir que l'ami est de plus en plus lui-même. Enfin, c'est son ami. Lui-même, avec ses qualités, mais aussi avec les conséquences plus originelles. Un regard de jalousie, un regard de concupiscence vis-à-vis de son ami, un manque de respect vis-à-vis de son autonomie. Sans toi, je peux rien faire. Il faut que tu sois là. Pourquoi tu n'es pas venu? Qu'est-ce qui est arrivé? La curiosité. La curiosité tue l'amour d'amitié. Parce qu'on veut dominer. Toute curiosité est en vue de la domination et non pas en vue de l'amour. On s'aperçoit à quel niveau elle a. Chair sur chair, os sur os, et ça devient insupportable. D'amitié, quand il s'éveille en moi, éveille mes passions, comme tout amour, ou réveille mes passions, comme tout amour. Il y a une purification qui doit se faire avant que l'amour d'amitié soit parfait et puisse grandir. On grandit dans l'amour en purifiant l'amour. Pour ça, il est bon de voir que l'amour d'amitié n'est pas simple, n'est pas instinctif. Tant qu'on croit que l'amour d'amitié est instinctif, ça prouve qu'on n'a pas compris qu'il impliquait un choix personnel qui n'est pas instinctif. Et que ce choix personnel impliquait une intention. Et que soit choix personnel impliqué domination vis-à-vis de l'imaginaire, et ainsi de suite. J'aurais aimé pour que votre question soit justifiée, que vous me disiez, vous, comment vous vivez de l'amour d'amitié. Alors vous auriez pu mettre en note ça, ne lisez pas tout. Est-ce que l'amour d'amitié implique un choix libre, lucide? Est-ce que vous avez dit à votre ami « je t'aime » d'un véritable amour? Est-ce que cet amour est conscient, parfaitement conscient? Alors il montre que c'est un amour spirituel et pas un amour instinctif. Un amour passionnel. Donc il y a une intention de vie. C'est un véritable amour d'amitié. Est-ce que vous avez compris les liens avec la charité surnaturelle en tant que chrétien? Et que vous avez vu, c'est pas si commode que ça, d'ajuster un amour d'amitié humain avec l'intention de notre vie, complètement donnée à Jésus, désireux d'être complètement donnée à Jésus. Et alors là, à ce moment-là, on prend conscience de ce qu'il y a d'essentiel à l'amour d'amitié et ce qui est secondaire, la taille du beurre. On voit que l'amour d'amitié demande une très grande lucidité pour être vécu dans la vie religieuse. Mais, alors, c'est possible que vous ne l'ayez pas encore vu, mais je vous affirme que vous le verrez. Et que ce que nous a donné, ce que je vous ai donné, comme analyse, est du vécu. Et non pas du tout. s'applique cela. Alors, si ça ne l'applique pas, j'aimerais que vous fassiez vous-même l'analyse de votre amour d'amitié et que vous me le montriez. Alors, je pourrais corriger et dire, là, vous voyez, vous n'avez pas vu ça. C'est très bien de mettre vos remarques, mais justifiez-les. Parce que, ceci, je dis ça pour vous, pas pour moi, mais pour vous. Parce que, une philosophie réaliste repose sur notre expérience. Si vous avez l'impression que tout ce qu'on a dit jusqu'ici, complètement en dehors de votre expérience d'amour, d'amitié, ça prouve que vous n'avez pas creusé suffisamment cet amour d'amitié et que vous êtes resté à l'écorce. Et que votre amour d'amitié, c'était une camaraderie. J'aime tel frère, ou j'aime telle personne, ça m'est agréable. Ah, est-ce que vous avez vu la différence entre l'amour d'amitié réel qui touche l'ami et l'amour d'amitié utilitaire, l'amour d'amitié de jouissance? Toute l'analyse qu'on a faite, c'est pour que vous compreniez que l'amour d'amitié est pour nous un acte humain, réfléchi, conscient, volontaire, impliquant un choix de vie et une découverte de la finalité. C'est ça l'expérience humaine de l'amour d'amitié. Et seule cette expérience humaine de l'amour d'amitié, seule, peut me faire comprendre que cet amour d'amitié implique une intention de vie, implique un choix, implique par le fait même certaines réflexions et délibérations, et implique ensuite une décision. J'ai dit à mon ami, tu es mon ami, tant que vous ne l'avez pas dit. C'est encore très vague et très imaginatif. C'est le jour où vous avez compris que l'amour d'amitié vous engageait vraiment à aimer telle personne comme un ami à qui on attend une réciprocité. Alors vous pouvez à partir de là analyser à la fois la simplicité de cet acte et la complexité de cet acte. Et là c'est très bien, je suis tout à fait d'accord, vous avez raison de pas voir, dire mais c'est très complexe tout ça. Et c'est vrai, c'est très complexe. Je suis tout à fait d'accord de dire que c'est très complexe. Parce que l'amour d'amitié est à la fois ce qu'il y a de plus simple en moi et ce qu'il y a de plus parfait. Je touche une fin humaine dans un véritable amour d'amitié. L'ami me finalise humainement, pas divinement, mais humainement. Donc, en tant que, étant donné entièrement au Christ, dans le point de vue chrétien, est-ce que l'amitié surnaturelle entièrement conscient de ce que représente l'amour. ça va très loin. Mon alliance avec le Christ. Et permettre, répondant, oui, c'est très vrai, ça va très loin. C'est toute votre vie. Moi, je ne suis pas digne. Attention. Avec la grâce du Christ, vous pouvez. En vous regardant tout seul, vous ne pouvez pas. Et vous ne pourrez jamais. En vous regardant tout seul. Parce que en vous regardant tout seul, vous direz omnis homo mandax, tout à même odeur. Parole de l'Écriture. Donc je suis menteur. Je ne veux pas l'être. Je m'engage à quelque chose qui me dépasse. Très juste. La vie religieuse nous dépasse tous. Et la vie religieuse n'est pas un concours humain. Un concours de rapidité. Un concours avec des obstacles. Un sous-obstacle. Il y a des sous multiples. Il y a des dépassements. Si je vois tous les dépassements à faire, c'est impossible. Et je me laisse accabler parce que je n'ai pas analysé avec suffisamment de conscience la grandeur d'une amitié. Spirituel et sur humain autre que tous ces moments-là. Ça, c'est très intéressant à faire. Dans votre vie morale, dans votre vie humaine, y a-t-il des actes humains que vous avez posés, dont vous avez l'expérience, qui n'entrent pas dans tous ces moments? Vous n'avez pas fait cette contre-épreuve, vous ne pouvez pas dire que l'amour d'amitié implique toute la richesse de l'acte moral. Voyez la question, il faut bien la voir avec beaucoup de clarté. Nous sommes partis de l'expérience de l'amour d'amitié, en présupposant que tous vous avez fait cette expérience, avec plus ou moins de force, plus ou moins d'intensité, vous avez tous fait cette expérience. C'est possible qu'il y en ait qui ne sont pas fait cette expérience. C'est possible. Mais, si vous ne l'avez pas faite humainement, vous l'avez faite au moins divinement, chrétiennement. Autrement, vous ne serez pas là. C'est le discernement d'une vocation. Est-ce que je peux répondre à cet amour du Christ sur moi? Et cet amour du Christ sur moi, puisque je suis chrétien, elle se fait dans le Christ. Le Christ m'a choisi. J'ai répondu à son amour. Mais c'est tout le discernement d'une vocation. Y a-t-il un appel du Christ? Est-ce que vous êtes capable d'y répondre? Il y avait divers lieux où vous auriez pu répondre. Vous n'avez peut-être pas regardé ces divers lieux, c'est pas nécessaire. Sur la route, on voit une belle auberge. C'est l'heure du repas. On va pas dire, je vais voir s'il y en a d'autres. Non, 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 non. Si vous êtes pressé, c'est suffisant. Autrement, si vous êtes passé devant une auberge, pour tous les conducteurs des poids lourds, vous arrêtez là. C'est intéressant du reste de faire cette expérience. Et on voit le repas classique de ces auberges. Il faut avoir fait cette expérience, alors je vous le dis pas, tu vois, surtout. Mais quand je voyageais avec un ami ecclésiastique, un livre. l'amour d'amitié. Alors, si vous ne voyez plus, voyez, est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est le dernier coup? Je vous ai déjà dit, hein, un cours de philosophie est intéressant que si on coopère. Ça, c'est montré qu'on coopère. Mais je dis, attention, on coopère à quel moment pour vous l'analyse qu'on a faite ne représente plus du tout l'expérience de l'amour d'amitié. Ça, ça m'intéresse. Pour vous remettre sur le rail. Mais peut-être qu'on est très loin et que dès le second coup, vous avez décollé. Alors vous auriez dû, si on avait bien coopéré, le mettre tout de suite. Mais je ne vois pas le lien. Parce que je ne peux pas tout reprendre. Mais je vous le demande de le faire. Parce que si un a décollé, il y a sans doute d'autres qui ont décollé. Alors, on ne coopère plus. Vous partez dans l'imaginaire. Mais alors moi, ça m'oblige de reprendre. Mais je ne peux pas être parfaitement efficace. Parce que je ne sais pas à quel moment vous avez décollé. À quel moment je reprends cette partie de la philosophie est en pratique. Pouvez-vous nous remontrer en quoi elle m'aide à mieux agir? Non, parce que c'est surtout. Ça, il me fait le mettre tout de suite dès le troisième point. Il me semble que je peux aimer d'un véritable amour sans être philosophe. Vous n'avez pas besoin d'être philosophe pour avoir l'expérience de l'amour d'amitié. Et si vous avez l'expérience de l'amour d'amitié et que nous devons essayer d'étudier ce que c'est l'acte humain, je dis cette expérience de l'amour d'amitié est la meilleure expérience pour comprendre ce que c'est que l'acte humain. Mais si vous ne voulez pas étudier ce que c'est que l'acte humain, alors vous ne faites pas de philosophie morale. Si vous faites de la philosophie morale, je dis, c'est l'expérience que vous avez de l'amour d'amitié, qui est la plus parfaite de vos expériences, pour découvrir ce que c'est que l'acte humain. L'expérience de votre amour d'amitié vous met en présence d'un acte humain parfait. Mais évidemment, votre expérience de l'amour d'amitié est peut-être très imparfaite. Alors, ça met en expérience d'un acte humain imparfait. Je module votre expérience comme une expérience parfaite. Alors, vous avez à ce moment-là l'expérience d'un acte humain parfait. C'est même l'expérience la plus parfaite que vous pouvez faire de l'acte humain. Je vais jusque-là. Parce que la contemplation qui reste encore un acte humain, c'est rare qu'on a une expérience parfaite de la contemplation philosophique. C'est rare. Quand on est dans votre âge, quand on n'a pas fait beaucoup encore de philosophie. Alors que la philosophie. l'amour, c'est l'amour d'amitié. C'est pour ça que je dis, je pars de là. Et vous pouvez avoir une expérience très parfaite. Une métier parfaite. Une expérience parfaite de l'acte humain à travers une expérience de l'amour d'amitié. Et puisque vous avez l'expérience de l'amour d'amitié, on peut par là découvrir qu'est-ce que c'est qu'un acte humain. Un acte humain demande d'être volontaire, d'être libre, d'être lumineux. C'est-à-dire qu'il y ait une connaissance. Or, l'amour d'amitié implique un amour très fort, puisqu'il porte sur une personne humaine l'ami. Et cette expérience, j'en ai parfaitement l'expérience, puisque j'ai dit à mon ami, tu es mon ami. Je l'ai même dit. J'ai eu cette expérience. Je sais qu'en disant à mon ami, tu es mon ami, cette expérience porte sur l'avenir. Vous ne dites pas à votre ami au moment où vous choisissez, tu es mon ami aujourd'hui. Parce que c'est une amitié de voyage. Demain, je sais pas. Si vous dites ça, votre ami se retourne, vous dit, tu blagues. On n'est pas l'ami d'un jour. On est l'ami d'une vie. C'est pour ça que c'est si grave. C'est pour ça que c'est si important. Tu es mon ami. Donc je t'ai choisi. Ça implique un amour. Ça implique un choix. Ça implique donc une connaissance. Une connaissance pratique qui porte sur l'ami. Une connaissance qui est profonde, qui n'est pas superficielle. Ça porte sur la personne. Évidemment, un amour d'amitié aussi fort, je n'en ai peut-être pas tout à fait l'expérience. Vous pourriez dire, je t'aime, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Si tu m'es sympathique, je ne dirais pas ça pour tous. Et toi, si tu es sympathique, je ne sais pas. Tu as un regard bienveillant, tu me sembles bon, tu me sembles intelligent. Très très bien. L'ami dira, tu verras, il y a des moments où j'ai une mauvaise humeur. Mais c'est pas ça qui te définit. Hein. Définir quelqu'un parce qu'il a une mauvaise humeur, c'est insipide. Ça prouve qu'on n'est pas très intelligent. Parce que, ordinairement, les efforts qu'on fait d'intelligence, ça fatigue. Et l'irascible est la passion la plus proche de l'intelligence. Et l'irascible, quand il est fort, fait que on est très facilement de mauvaise humeur. Ce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres intelligents. Exaspérant de voir des gens qui tournent autour de vous et qui sont bêtes. Alors la réponse, c'est essayer de me humeur quand on n'est pas encore un saint. Faut du temps. Alors c'est pour ça. Définir quelqu'un avec une mauvaise humeur, c'est un peu insipide. Ça ne vous connaît pas. pas très intelligent. C'est la grande réponse qu'on peut donner et qu'on peut se donner. Ça nous rassure. Et ce qui est bon, c'est que c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on a de la peine à atteindre la personne. On atteint surtout ses qualités. Alors, toute analyse que j'ai faite quand on regarde, je ne colle pas. Et c'est pas à cause de l'expérience de l'amour d'amitié qui touche la personne. C'est mon expérience. Mon expérience d'amour d'amitié n'est pas aussi profonde. Je reste encore très fort au stade descriptif. Pour arriver à une analyse, il faut toucher la fin. Et la fin n'est touchée que lorsqu'on se regarde un bien personnel, une personne. Alors, j'aurais pu, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aurais pu dire, je vais d'abord faire une description d'ordre phénoménologique sur l'amour d'amitié. Là, tout le monde se serait reconnu. Parce qu'il y aurait des beaux jours, il y a du soleil, et les mauvais jours, il y a du... On a envie de lui dire, non, va-t'en, on n'est pas fait pour ça. Et puis les beaux jours, oh, j'ai découvert là, quelqu'un qui est merveilleux. Je comprends tout ce qu'il est. Hein? Je sais pas, c'est le signe de l'amitié véritable. Mais fait d'une façon descriptive, c'est vrai. Après, on fait l'analyse. Il faut toujours faire ça. Mais on n'a pas le temps de faire la description phénoménologique. Parce que ça ne forme pas. Tandis que l'analyse forme. La preuve, c'est que ça s'arrête quelques ans au chemin. Tandis que la description n'aurait arrêté personne. Tandis que l'analyse, oui. Alors, refaites tous les moments d'analyse qu'on a faite et essayer de découvrir une expérience vraie d'amitié que vous avez au plan surnaturel, sûrement. Vous voyez que tout